au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
C'est lundi 6 octobre. J'espère que vous avez passé une belle journée. On peut pas faire autrement que passer une belle journée avec des températures comme ça. 28 degrés au cœur de Lanaudière. Je vous rappelle, on est le 6 octobre. Faut pas trop se plaindre. On a passé une fin de semaine formidable. À l'émission aujourd'hui, Michel Delaplante. Il est directeur des incendies et sécurité publique du côté de Saint-Michel-des-Saints. On va parler de l'acquisition d'un nouveau super camion de pompiers là, du côté de Saint-Michel-des-Saints. Avec Pierre Paquette, il sera question de cette rencontre qui aura lieu demain entre le premier ministre Mark Carney et Donald Trump. Alexis Nantel sera avec nous, nouveau maire de Saint-Charles-Borromée. Une émission qui va beaucoup parler de politique municipale. Il y a également Mathieu Bélanger, analyste politique, qui sera avec nous pour parler des candidats aux élections municipales qui ont été élus sans opposition. Mais tout d'abord, ben, parlons de sans opposition du côté de Terrebonne. Le maire Mathieu Traversy est aux anges. Il a été réélu donc sans opposition comme 14 des 16 membres de son équipe. Il y a donc élection, mais élection de deux candidats seulement du côté de Terrebonne. Régent Turgeon a eu l'occasion de rencontrer cet homme heureux, Mathieu Traversy, élu maire de Terrebonne.
Ben écoutez, on reçoit ça avec beaucoup de fierté. Ça veut dire que les citoyens sont satisfaits du travail qu'on fait à l'Hôtel de Ville. Notre bilan est bon. Vous savez, M. Turgeon, habituellement, quand il y a des élections, c'est parce qu'il y a beaucoup de frustration, c'est parce que les gens sont déçus. Donc, visiblement, qu'une bonne partie de la population est donc en accord ou trouve qu'on fait de notre mieux pour faire avancer la municipalité. Puis on va continuer dans les prochaines années.
Est-ce que c'est ce qu'on souhaitait quand même, une élection sans vote dans une grosse ville de 124 000 habitants?
Nous, on se prépare toujours comme si on allait avoir des adversaires dans tous les districts, à la mairie. Donc, on s'est préparé en conséquence. On a fait notre affichage, on avait notre local électoral. Nos équipes étaient sur le terrain pour faire du porte-à-porte. Évidemment, bien, écoutez, lorsque on est élu par acclamation, on le prend avec aussi beaucoup de philosophie. Hein. Il faut rester humble là-dedans. Ça veut dire qu'il faut continuer, mais au contraire, il faut poursuivre le travail terrain qui a été débuté. Et nos équipes vont continuer à être sur le terrain jusqu'au 2 novembre prochain parce qu'il nous reste encore deux collègues à amener autour de la table, donc dans le district numéro 16 et 7 de la ville de Terrebonne.
Le balayage n'est pas complet, là. On peut espérer un balayage?
Écoutez, on va travailler pour la victoire. Moi, je pense qu'on a le droit d'avoir autour de la table le maximum de conseillers avec leur expérience, aussi diversifiée soit-il. Puis la personne de Marie-Ève Couturier et de Marc-André Michaud, c'est des éléments importants dans notre équipe. On va se battre pour les garder avec nous autour de la table du conseil de ville. Puis c'est là-dessus qu'on planche pour le 2 novembre prochain.
Est-ce que c'est quand même étonnant de ne pas avoir eu plus d'opposition, surtout quand on parle de l'importance de la démocratie et de l'importance d'un gouvernement de proximité comme un gouvernement municipal?
Bien, écoutez, moi, là, dans mon équipe, j'ai des gens de tout horizon. J'ai des gens de gauche, j'ai des gens de droite, j'ai des gens qui sont proches du milieu patronal, d'autres du milieu syndical. J'ai des gens qui sont de toute orientation politique et de toute génération. Et là-dessus, ça donne une belle diversité. Je peux vous dire que le débat à l'interne du mouvement Terrebonne, il est très fort. Il n'y a pas une décision qui se fait à 16 en 16 dans les décisions du conseil de ville. Donc, il y a beaucoup de diversité à l'intérieur du parti. Puis je pense que ça reflète bien la volonté des Terreboniens et des Terreboniennes.
Vous aurez quand même les coups des franches là, à l'Hôtel de Ville, mais on peut penser que les citoyens pourront continuer quand même de se faire entendre. Puis comme vous avez dit, il y a des débats à l'interne. Ça peut quand même brasser au niveau des idées, là. On passera pas tout ce qu'on veut.
Exactement, tout à fait. Ça brasse à l'interne. On a une diversité d'opinions. Évidemment, ça nous demande de trancher, de faire des compromis, d'être capable d'en arriver donc à des solutions à l'amiable avec l'ensemble de l'équipe. Mais à la fin, on est démocrate puis on est capable donc de se rallier. C'est ce qui fait notre force. Terrebonne avance très rapidement depuis les 4 dernières années. On le voit, il y a des dossiers qui sont réglés et qui traînaient dans le paysage politique depuis longtemps. On peut penser au Boisé. Ici, vous êtes maintenant dans un quartier reconnu historique et patrimonial par le gouvernement du Québec. Donc, une reconnaissance de la valeur et de la richesse donc du cœur historique de la ville de Terrebonne. On a travaillé très fort donc à essayer d'améliorer certains services, de décentraliser la culture partout à travers le territoire. Il nous reste encore beaucoup à faire. Vous savez qu'on est sur un projet de campus campus universitaire à Terrebonne. Donc, on veut notre quartier universitaire dans le coin de la Chenaie. On lâchera pas. Il reste un échangeur à finir dans Urbanova. Donc, il y a des grands chantiers qui s'en viennent. Puis, vous avez vu aussi qu'on a acquis le golfe Le Boisé, qui risque d'être aussi tout un chantier au cours des prochaines années.
Le premier défi là, d'une nouvelle administration passée le 2 novembre, ça pourrait être la préparation du budget 2026. On y pense?
On y pense, mais en même temps, on n'est pas encore complètement rendu là parce qu'il nous reste encore deux collègues donc à rapatrier autour de la table. C'est certain que ça risque d'être beaucoup plus efficace et agréable cette année. Je me rappelle en 2021, nouvelle équipe arrive au conseil de ville. On est au mois de novembre, il faut avoir un budget dans un mois. On connaît pas tous les détails de la ville, tous les états financiers. Il y avait beaucoup de rattrapage à faire. Là, maintenant, on a une équipe qui connaît l'état des lieux à Terrebonne, qui connaît sa situation, qui sera capable de prendre les bonnes décisions là, pour la suite.
Vous avez glissé un mot sur les dossiers prioritaires de votre ville. Au final, on constate cette année 2025, bon nombre de villes, villages, municipalités ont élu leur administrateur locaux, leur maire, conseiller, par acclamation. C'est une tendance, ça? Est-ce que c'était prévisible?
Bien, écoutez, c'est une tendance qu'on voit quand même souvent, particulièrement dans les villes de plus petite taille au Québec. Donc, vous savez, des fois, quand on est à la tête d'une plus petite municipalité, on a, comment je pourrais dire, des gros défis, puis on n'a pas toujours tous les moyens pour être capable de les corriger. Il y a aussi beaucoup de missionnariat. Hein. Les gens n'ont pas nécessairement la liberté de travailler à temps plein comme maire ou comme conseiller municipal. Donc, là-dessus... je pense qu'à Terrebonne, on a été plus chanceux. C'est une exception. Ça arrivera pas tout le temps. Moi, j'ai étudié en sciences politiques. On appelle ça l'usure du pouvoir, M. Turgeon. Puis il y a personne qui finit par s'en sortir. Donc, faut rester vigilant. Puis je vais essayer de donner mon maximum jusqu'à la fin du mandat pour améliorer la qualité de vie des Terrebonniens.
Régent Turgeon, donc, qui s'entretenait avec Mathieu Traversy, élu sans opposition à la mairie de Terrebonne. Est-ce que c'est bon pour la démocratie? Ben, écoutez, si ça allait à l'encontre de la démocratie, ça ne marcherait pas comme ça. De toute façon, si des gens s'opposaient à Mathieu Traversy, ben, ils n'avaient qu'à se présenter. Et chose assez intéressante quand même, c'est qu'on sauve de l'argent, évidemment, en n'ayant aucune opposition. C'est pas facile quand même quand on parle de politique municipale, la mairie d'une municipalité, avoir un poste de conseiller municipal, ouais, ben on fait face à souvent beaucoup d'opposition sur les réseaux sociaux, mais quand arrive le temps d'une élection, ben il y a personne qui se présente. Il s'agit de la politique de proximité, la politique municipale. Et parfois, ben, c'est pas évident. Parlez-en, par exemple, au maire de Québec, Bruno Marchand, qui se fait insulter puis menacer sur les réseaux sociaux. On en parle d'ailleurs aujourd'hui dans l'actualité, là. C'est toujours, pas toujours évident, là, politique municipale. D'ailleurs, on va en parler davantage dans un moment avec notre analyste politique, Mathieu Bélanger.
Tout le contenu de votre radio dans une seule application. L'application CFNJ sur Android et Apple.
T'aurais pas une idée pour que je me fasse connaître sans me ruiner? Les gens veulent acheter local, mais s'ils me trouvent pas, ça sert à rien.
Tu te rappelles du Petit Bottin? Il est maintenant modernisé. En plus d'être distribué par La Poste, ils ont un site web bien référencé. Va sur notreentourage.ca. Inscris-toi!
Du lundi au vendredi, entre 11h et 14h, la Fromagerie Victoria vous propose un délicieux menu midi. Soupe, repas et breuvages à partir de 14$. Rapide et abordable, la solution pour vos dîners pressés. Fromagerie Victoria, 791 rue Gadoury, à Berthierville.
Pourquoi BDC pour mon entreprise? Je sens que c'est le moment, là. Ça bouge, l'économie change. On me parle d'automatisation, d'intelligence artificielle, puis moi je me dis, faut que je me lance. J'ai besoin d'un prêt, mais aussi d'un vrai coup de main et quelqu'un qui m'accompagne là, pour vrai, puis qui va m'aider pour les prochaines étapes. Maintenant, là, pas plus tard.
Préparez la suite avec BDC. Obtenez du financement et des conseils adaptés à vos projets. Découvrez comment à bdc.ca/financement. BDC, financement, conseil, savoir-faire.
C'est le moment idéal pour faire l'entretien de votre système chez Bessette Créateur de confort. Obtenez 80 $ de rabais sur le nettoyage de votre unité murale ou recevez un filtre gratuit à l'achat d'un entretien de votre système central. Profitez aussi de 20 % de rabais sur l'entretien de votre échangeur d'air. Ces promotions s'appliquent aux fournaises Moveair, Fujitsu ou autres systèmes. Et n'oubliez pas, mentionnez CFNJ lors de la prise de rendez-vous pour un rabais exclusif.
C'est le Festival de la galette de Sarrasin de Louisville. Plusieurs spectacles, dont Graveauport, les Cousins Branchaud, Laurent Saint-Martin et la traditionnelle Parade. Jusqu'au 12 octobre, Louisville vous attend. Infos et billets au festivalsarrasin.com.
Dans le cadre de ces activités Mission Relève, présentées par la CDEJ en collaboration avec Cédar Gestion, la famille Harvey, la Chambre de commerce du Grand Joliette convie les gens d'affaires à un Lunch and Learn au Jardin des Noix le 8 octobre prochain. Venez profiter des couleurs et des saveurs alors qu'une visite exclusive et une rencontre privilégiée avec les propriétaires sont au programme de cette magnifique journée d'automne. Inscription en ligne au ccgj.qc.ca.
Diane Monette, audioprothésiste, est à votre écoute depuis 1997. Son équipe est à l'écoute de vos besoins afin de prendre soin de vous adéquatement. Elle vous offre des services professionnels ainsi que des produits audioprothétiques appropriés à la fine pointe de la technologie afin de répondre à tous vos besoins auditifs. Vous croyez avoir besoin d'un test d'audition? Le dépistage auditif est offert sans frais jusqu'au 31 décembre 2025. Diane Monette, audioprothésiste, 136 Boulevard. Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Prenez rendez-vous maintenant au 450-759-9939.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Saint-Roch-de-la-Chigan, Saint-Barthélemy, Saint-Ambroise-de-Kildare, Sainte-Élisabeth.
CFNJ 99.1-88.9.
Les chansons américaines, on est bien capable de s'en passer.
La Naudière PM. Politique municipale.
Oui, juste avant la pause, on parlait avec Mathieu Traversy, maire élu sans opposition du côté de Terrebonne. En fait, il y a environ 50% des candidates et candidats aux élections municipales du 2 novembre prochain qui ont été élus sans opposition à la fermeture de cette fameuse période de mise en candidature. Là, ça se terminait, je vous le rappelle, vendredi dernier. Et François Morin a échangé là-dessus avec notre analyste politique, Mathieu Bélanger.
C'est toujours difficile de voir exactement qu'est-ce qui pousse les gens à se présenter ou pas aux élections. Mais on sait qu'il y a plusieurs facteurs là, qui entrent en ligne de compte depuis les dernières années. Il y a 4 ans, il y a eu un renouveau dans plusieurs municipalités, dont certaines des principales de la région de la Naudière, que ce soit à Joliette, à Repentigny, à Terrebonne, etc. Des nouvelles équipes qui sont arrivées en place, ou des nouveaux maires ou mairesses qui sont arrivés en place. Et on peut présumer que 4 ans plus tard, ces gens-là, dans cette vague de renouveau-là, ont créé une certaine satisfaction, on peut le présumer, pas d'insatisfaction suffisante en tout cas, pour que des gens puissent souhaitent se présenter contre les équipes sortantes. Donc peut-être un effet que l'usure du pouvoir n'est pas encore arrivée, on n'est peut-être plus en lune de miel, mais il n'y a pas tant d'usure du pouvoir après un mandat. Parallèlement à ça, on voit que depuis quelques années, depuis la pandémie en particulier, il y a plusieurs reportages, plusieurs études qui le démontrent. Au niveau du monde municipal, il y a beaucoup plus de violence qui est subie par nos élus. Cela, donc, de violence surtout verbale, surtout sur les réseaux sociaux, là, pas tant au niveau physique, mais des menaces, des commentaires dénigrants, particulièrement sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, ça peut démotiver des gens, ou en tout cas, c'est ça que plusieurs analyses démontrent, qu'il y a des gens qui ne veulent plus se représenter, voire on a eu quand même, dans les 4 dernières années, là, dans l'ensemble de la province, si je me souviens bien, c'est autour de 20% des... il faudrait que je vérifie le chiffre, mais des personnes élues qui ont démissionné pour un paquet de raisons, là, qui sont très variées, mais donc qui n'ont pas complété leur mandat. Mais dans un certain nombre de cas, je pense entre autres à l'ancienne mairesse de Gatineau, qui était très publique là-dessus, mais c'est à cause du contexte là, de violence ou de menaces le subit, justement. Donc, tout ça peut faire en sorte que plus de gens qui se sont dit, finalement, ça me tente pas de poser ma candidature. Notamment dans la région actuelle, il y a une démotivation concernant la politique municipale, c'est souvent le milieu qu'on connaît le moins, sur lequel on sent qu'on a le moins d'emprise aussi, parce que les grandes décisions se passent dans ce contexte-là, surtout au niveau provincial, les éléments au niveau fédéral aussi. On est dans un contexte un peu morose avec les relations avec les États-Unis, avec des guerres ailleurs, mais tout ça pèse parfois sur le moral des gens qui disent, ben, est-ce que vraiment je veux m'impliquer en politique? Peut-être pas, est-ce qu'il y a de l'espoir même pour l'avenir? C'est un petit peu pessimiste mon discours ce matin, mais c'est un peu la réalité qu'on observe dans un certain nombre de cas.
Et il y a un autre élément qui a fait l'actualité pas mal, c'est la charge de travail des élus, les responsabilités qu'ont les municipalités dans divers dossiers. Ça aussi, ça a peut-être joué.
Santé, services sociaux, itinérance, environnement, transport en commun, ce sont des enjeux majeurs au niveau municipal maintenant, même si les leviers de pouvoir sont au provincial. Et ça aussi, effectivement, ça rentre dans ce que j'expliquais de démotivation au niveau municipal. Est-ce que je veux mettre ma candidature pour travailler sur les enjeux pour lesquels les citoyens ont des demandes qu'on peut juger légitimes, des demandes qui demandent beaucoup de choses, justement, en termes de ressources, en termes de financement, en termes d'organisation, mais les leviers de décision ne sont pas au niveau municipal, sont au niveau provincial. Ça aussi, effectivement, ça rentre dans la démotivation d'un certain nombre de personnes qui se disent, ben, à quoi bon ça me sert de faire ça, ou de toute façon, si je me présente, si je suis élu, ben les soins vont me demander des choses, puis tout ce que je vais pouvoir leur dire, c'est, je peux rien faire là-dessus, c'est pas très motivant parfois.
Et il y a un autre phénomène aussi qui est observable et qui est intéressant, c'est la formation d'équipes, voire même de partis municipaux. Il y a peut-être une vingtaine d'années, on voyait pas ça, on coûte très peu en région, et là, ça apparaît.
Les équipes, puis au niveau municipal, on va se le dire, là, la plupart du temps, les équipes sont vraiment c'est le bon terme, des équipes autour d'une candidature à la mairie. C'est l'équipe de monsieur, l'équipe de madame. On a peu de partis politiques, là, au vrai sens du terme, c'est-à-dire qui vont survivre finalement là, après le départ du chef, parce qu'on a une orientation idéologique, puis les gens adhèrent à cela, comme on peut le voir là avec les différents partis politiques provinciaux, fédéraux, qui perdurent dans le temps. Dans le niveau municipal, c'est généralement des équipes autour de l'individu. Mais ça a une utilité quand même, ces équipes-là, de structurer le discours, de ça permet aux électeurs de savoir, bon, ben je vote pour monsieur, madame à la mairie qui m'intéresse. Bon, ben les gens de son équipe, comme conseiller, conseiller municipal dans mon district, ben je sais que si j'ai monsieur, madame à la mairie, ben je vais pouvoir voter pour l'autre personne qui appuie ces idées-là, finalement, que ceux-là vont pouvoir travailler ensemble. Ou à l'inverse, je veux l'opposition, donc je vais voter pour quelqu'un d'autre qui est pas dans cette équipe-là. Souvent, les équipes vont faciliter finalement le discours politique, permettre aux citoyens d'un peu mieux connaître quand même pour qui ils votent, ou au moins les grandes orientations, parce que sinon, de connaître le chacun des candidats, des candidatures, savoir pour chacun qu'est-ce qu'il propose dans un monde théorique de sciences politiques, ça serait un monde parfait, ça serait un monde merveilleux, mais justement, ça n'existe pas comme ça dans la vraie vie. Les gens ont très peu d'idées finalement sur qui sont les individus là directement, mais en fonction de l'équipe, ça donne une certaine idée. C'est pour ça que les gens se réunissent comme ça.
Et lorsqu'une équipe est élue au grand complet, la seule opposition va venir les citoyens.
Oui, c'est la particularité qu'on a au niveau municipal, contrairement au provincial, au fédéral, où les citoyens peuvent se faire entendre directement dans les séances du conseil municipal à peu près tous les mois. Ben, effectivement, soit qu'il va y avoir une opposition au sein du conseil municipal, soit qu'il y aura une opposition au sein du conseil municipal, ou en plus, il y aura des soins qu'on pourra aller s'exprimer, ce qui fait en sorte qu'on a moins le sentiment au niveau municipal que tout est décidé d'avance, même s'il y a une seule équipe qui a gagné et que les soins n'ont pas voix au chapitre, faut attendre 4 ans, comme on a parfois l'impression au niveau provincial ou au niveau fédéral, ou qu'une fois le vote fait, les soins sentent qu'ils ont parfois moins de pouvoir. Au niveau municipal, peuvent se faire entendre, en plus des autres outils qui existent, faire des pétitions, des choses comme ça, des commentaires sur les réseaux sociaux, mais peuvent directement se faire entendre, directement poser des questions aux élus et idéalement avoir des réponses. Et au niveau municipal, ben, comme on parlait justement d'équipe et non de partis politiques avec une vision idéologique, ben souvent, même si les gens sont tous de la même équipe, ils vont se permettre d'avoir un peu plus de liberté au niveau du conseil municipal et de critiquer les décisions les uns des autres, parfois de pas toujours voter ensemble, parce qu'on sait qu'on est ensemble parce que de façon générale, on appuie certaines idées, mais qu'on n'a pas une orientation idéologique là, qui nous tient ensemble. C'est ce qui fait aussi que les équipes changent quand même assez rapidement habituellement au niveau municipal, d'une élection à l'autre, et qu'au sein même d'une équipe, ben parfois, ça va se fissurer. Donc, il y a quand même une démocratie qui peut exister comme ça, même quand une équipe remporte là, l'ensemble des sièges dans un conseil municipal.
Ben c'est Mathieu Bélanger qu'on écoutait, notre analyste politique. Là, on parlait de ces candidats aux élections municipales qui sont élus sans opposition. Il y en a beaucoup, hein. Ils sont environ 50% au Québec là de candidats et candidates aux élections municipales qui ont été élus sans opposition. Et c'était le cas de Mathieu Traversy, à qui on en parlait en début d'émission, maire de Terrebonne. Et c'est le cas également d'Alexis Nantel, nouveau maire de Saint-Charles-Borromée, qu'on aura l'occasion d'entendre après les informations de 16h30.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Métropolitaine pour l'échangeur en joue. Là, c'est très, très lourd à secteur de l'avenue Réaume et ça sur environ 1 km. On reprend par la suite de la vitesse. Je regarde Marien. Ouais, ça circule quand même assez bien. Secteur Henri Bourassa, un petit peu dense, un léger ralentissement Henri Bourassa. On reprend de la vitesse par la suite. Là, traversée facile vers la rive nord, Repentigny, 40 Est, on circule bien. En direction ouest, c'est lourd depuis un peu avant Brien et ça jusqu'à Benjamin Moreau, même passer un peu Benjamin Moreau. Pont-le-Gardeur par Notre-Dame et Sherbrooke, ça va très bien. La 25 Nord maintenant, c'est dense depuis un petit peu après le boulevard Lévesque du côté de Laval, et ça jusqu'à environ 1 km passé la jonction avec la 440. On rentre facilement sur Terrebonne, oui, Île-Saint-Jean, ça va bien. Le pont Sophie-Masson, facile en ce moment, et finalement autoroute 640 entre la 25 et la 40 en direction ouest, ça va bien. Direction ouest, c'est plutôt dense depuis la montée du Mai et ce, jusqu'à la 40. Dans un moment, l'actualité avec Pierre Jubinville.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte?
Bingo!
La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net. et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
À Télé-Québec, le mercredi 20h, une époque formidable, animée par Stéphane Bureau.
On est nul à chier en Amérique du Nord avec les émotions.
Déjà, je sens que ça vous parle.
S'exprimer.
Je trouve que notre époque, elle est inculte, elle est illettrée, elle ne s'intéresse qu'à elle-même.
Questionner.
Il y a quelqu'un qui lève la main.
Je suis d'accord avec un argument de mon adversaire politique.
Échanger.
Wow, ça doit faire 20 minutes que j'ai envie d'intervenir puis de sauter dans l'arène.
Aller au-delà des préjugés avec une époque formidable, mercredi 20h à Télé-Québec.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Youhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Diane Monette, audioprothésiste, est à votre écoute depuis 1997. Son équipe est à l'écoute de vos besoins afin de prendre soin de vous adéquatement. Elle vous offre des services professionnels ainsi que des produits audioprothétiques appropriés à la fine pointe de la technologie afin de répondre à tous vos besoins auditifs. Vous croyez avoir besoin d'un test d'audition? Le dépistage auditif est offert sans frais jusqu'au 31 décembre 2025. Diane Monette, audioprothésiste, 136 Boulevard Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Prenez rendez-vous maintenant au 450-759-9939.
Il est 16h29, Pierre Jubinville est là pour l'actualité. Pierre, j'envie les gens qui sont atteints de fièvre, des foins et qui sont complètement congestionnés aujourd'hui. Si vous êtes dans le secteur de Joliette et vous sortez à l'extérieur, ça pue, c'est pas possible. Il y a eu de l'épandage. Hein?
Vous êtes spécialiste du purin. Hein?
Oui. Ah là, ça sent le purin là aujourd'hui, c'est pas possible. Je crois que c'est le purin de vache aujourd'hui.
Ben, là, c'est ça, comme je dis, vous êtes spécialiste.
Ouais. On va parler de chaleur et d'incendie. D'abord, les records qui tombent les uns après les autres, Pierre.
Ouais, hein? La chaleur ne doit pas aider beaucoup pour les senteurs, justement, de purin. On bat plusieurs records qui sont fracassés jour après jour. Hier, c'était 28 degrés. Aujourd'hui, le record devrait être fracassé aussi.
On a 28 actuellement.
On a 28. Ouais. Bon, ben, on doit sûrement sur le point de le battre. Alors, Pierre Corbin d'Hydrométéo souligne, lui, que l'absence de précipitations au courant du mois d'août et aussi en septembre, et là, le début octobre, c'est la même chose, assèche les rivières.
Donc, ces conditions de sécheresse-là, donc les précipitations ayant été moins importantes que la normale, causent ce qu'on appelle des étiages prononcés. La plupart des cours d'eau dans le bassin versant de la rivière L'Assomption sont très bas actuellement, dont plusieurs ont des minimums historiques au moment où on se parle, comme la rivière L'Assomption, la rivière Waro et la rivière Lachigan.
On a vraiment besoin d'eau et d'ailleurs, demain, là, on prévoit 10 à 15 millimètres d'eau.
C'est pas énorme. On va le prendre.
Et quand on dit chaleur et sécheresse, on parle aussi, Pierre, de feux de forêt.
Oui, il y a des feux de forêt, une trentaine en Outaouais, dans les Laurentides et dans Lanaudière. Celui du côté de Saint-Lin-Laurentides est maîtrisé, mais la situation est qualifiée d'exceptionnelle par ceux qui combattent les incendies.
Un si grand territoire du Québec touché par une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en octobre, c'est du jamais vu pour Stéphane Caron, coordonnateur aux communications de la SOPFEU.
C'est une situation très inhabituelle. On a des conditions en ce moment qui se rapprochent plus de celles de l'été.
Il a fait chaud, peu de pluie est tombée depuis des semaines.
Ça a commencé en août, ça s'est poursuivi en septembre et c'est cumulatif. Donc, on a des sécheresses extrême.
La saison de la SOPFEU, habituellement, est presque terminée à ce temps-ci de l'année. L'organisation a donc dû rappeler au travail ses pompiers forestiers.
Beaucoup ont répondu à l'appel, mais on n'est pas au même niveau d'effectif là, qu'on a habituellement pendant l'été. La situation est sous contrôle, mais peut quand même être qualifiée de critique.
La SOPFEU demande la collaboration de la population. Il faut éviter qu'il y ait d'autres feux. Ici Denis Couture pour Cogeco Nouvelles.
Et d'ailleurs, Pierre, pour rester un peu dans le même sujet, c'est la semaine de la prévention des incendies.
Oui, sous la thématique « Le premier responsable, c'est toi ». Donc, l'objectif est de rappeler les bonnes pratiques et de montrer les comportements problématiques à éviter. On le répète souvent, Claude, ça peut sauver des vies, de vérifier le bon fonctionnement des détecteurs de fumée à la maison. Patrick Saint-Louis est du service de sécurité incendie de Joliette.
Au Québec, il y a au moins 20% des gens qui n'ont pas d'avertisseur de fumée fonctionnel. Fait que, puis oui, je pense que l'avertisseur est fonctionnel, mais ils vont pas le tester une fois par mois. Fait que ça, c'est, ils voient l'avertisseur, mais ils n'ont pas été validés s'il était fonctionnel. Fait que ça, c'est un mauvais gardien.
Élection municipale maintenant, Alexis Nantel qui sera assermenté ce soir à Saint-Charles-Borromée.
Oui, après deux mandats de Robert Bibeau à la mairie, on peut vraiment parler d'un vent de renouveau qui souffle à Saint-Charles-Borromée. La nouvelle équipe sera assermentée donc ce soir. Monsieur Nantel, Alexis, nous a fait part de sa priorité.
C'est la sauvegarde des boisés restants du territoire. En termes de pourcentage, c'est très peu sur le territoire de la ville de Saint-Charles-Borromée. Depuis décembre 2023, on a le droit de changer le zonage de ces zones-là boisées pour les protéger ultimement. Puis comme nous, on veut en plus en faire l'acquisition, je pense que les propriétaires et les promoteurs n'ont pas de raison de s'en plaindre. Nous, ce qu'on veut à la fin de ça, c'est que les Charlois en profitent, puissent aller faire du ski de fond, puissent faire du vélo d'hiver, puissent faire de la randonnée pédestre.
Et dans les 10 dernières années, là, ça s'est bâti énormément du côté de Saint-Charles-Borromée. On aura l'occasion de vous présenter dans les prochaines minutes là, une entrevue complète qu'a réalisée le collègue François oui. Morin avec Alexis Nantel, nouveau maire de Saint-Charles-Borromée. Et du côté de Terrebonne, il y a Mathieu Traversy qui a réussi l'improbable.
Oui, c'est pas un nouveau maire, c'est son deuxième mandat. Il a réussi à se faire réélire et 14 de ses conseillers, et tout ça sans opposition. Alors, il y a deux districts qui font le jeu d'une élection le 2 novembre. Le maire est fier d'avoir pu faire élire presque tous les membres de son parti, Mouvement Terrebonne. Il note qu'ils proviennent de tous les milieux, ce qui permet d'avoir des débats diversifiés au sein du conseil.
Terrebonne avance très rapidement depuis les quatre dernières années. On le voit, il y a des dossiers qui sont réglés et qui traînaient dans le paysage politique depuis longtemps. On peut penser au Boisé. Ici, vous êtes maintenant dans un quartier reconnu historique et patrimonial par le gouvernement du Québec. Donc, une reconnaissance de la valeur et de la richesse du cœur historique de la ville de Terrebonne. On a travaillé très fort donc à essayer d'améliorer certains services, de décentraliser la culture partout à travers le territoire.
Politique fédérale, maintenant, le Bloc québécois qui réclame un grand ménage dans l'industrie du camionnage.
Oui, une refonte de l'industrie. Actuellement, on a affaire à des chauffeurs qui sont mal formés, indépendants et qui menacent les compagnies dignes de confiance, nous dit Annie Guillemette.
Malheureusement, j'ai retrouvé le reportage, oui.
Le monde du camionnage est atteint d'un cancer, selon plusieurs. D'une part, des compagnies sans scrupules embauchent des conducteurs immigrants indépendants. Le contrôle fiscal devient donc impossible, selon le PDG de l'Association du camionnage, Marc Cadieux.
On sous-traite les transports afin de vraiment créer un écran de fumée.
Devant une baisse des prix de 20 à 30 % les compagnies légitimes, comme celle de Daniel Bérard, perdent leur rentabilité.
Carrément un Far West, qu'est-ce qui se passe dehors? Ce 30 %-là, c'est carrément impossible pour nous de combattre ça.
Mais le plus gros problème reste la formation déficiente qui entraîne des accidents souvent mortels. Par exemple, les charges sont trop importantes, comme à la fin août, quand une mère et son fils sont morts sur l'autoroute 30, ou si les chauffeurs indépendants demeurent de trop longues heures au volant, ce qui est une menace réelle, selon le président de la Fraternité des contrôleurs routiers, Jean-Claude Daigneault.
C'est un petit peu pareil que si on était en état d'ébriété là, quand on a passé cette semaine.
Annie Guillemette, Cogeco Nouvelle Montréal.
Un petit cadeau de Donald Trump à la veille de la visite de Mark Carney, Pierre.
Ben oui, le président Trump qui accueillera demain Mark Carney, puis on va lui imposer une nouvelle taxe de 25 % sur chaque camion neuf qui traverse la frontière. On sait qu'on en fabrique à Sainte-Thérèse, l'usine de Kenworth. La nouvelle taxe entrera en vigueur le 1er novembre. Et Trump prétend qu'il prend cette décision pour des questions de sécurité nationale. La Maison-Blanche doit soutenir les fabricants américains de camions. Ça, c'est la vérité.
Et on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec Pierre Paquette. Et en terminant, début de la période de vaccination?
Oui, l'automne qui commence vient nous rappeler que c'est la période de vaccination contre la grippe, la COVID et le virus respiratoire. La population peut dès maintenant réserver son rendez-vous sur Clic Santé.
Merci, Pierre. On se retrouve demain, même heure, même poste. Il est 16h37.
Au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1 88.9.
Lanaudière PM. Politique municipale.
À Saint-Charles-Borromée, le parti Collecticité d'Alexis Nantel a les coudées franches pour les quatre prochaines années. Toute l'équipe a été élue sans opposition au terme de la période de mise en candidature que je vous rappelle là, qui se terminait vendredi dernier. Et François Morin a rencontré aujourd'hui le nouveau maire Alexis Nantel.
Alors Alexis Nantel, d'abord félicitations, une élection quand même, je dirais pas sur un plateau d'argent, on s'en était parlé, il n'y a pas eu d'opposition finalement.
Non, il n'y a pas eu d'opposition, puis je l'ai toujours dit, j'aurais aimé qu'il y en ait pour un débat, un échange d'idées. En même temps, je pense qu'on était bien préparés, tu sais, on dit, bon, on veut la paix, on se prépare pour la guerre, c'est un peu ce qu'on a fait, le parti et moi, depuis un an, plus qu'un an et demi maintenant. Puis je pense qu'on a fait une bonne proposition aux Charlois, avec un plan vraiment très complet, très clair de d'où on s'en va, de ce qu'on veut. Puis en même temps, pourquoi créer une opposition contre une opposition? Je pense qu'on avait tout pour plaire.
Mais là, il y a des attentes. Faut livrer.
Oui. Ben, en contrepartie, c'est sûr que c'est ça. Puis les gens vont nous juger sur les résultats qu'on va donner, hein, qu'on va livrer. Mais je pense qu'on est très confiants. Puis on se met au boulot dès maintenant. On travaille déjà sur différents dossiers.
Bon, la priorité, ça sera quoi?
Ben, je dis toujours qu'il y a plusieurs priorités, hein, puis il faut les mener pas mal toutes de front en même temps. Mais c'est sûr que nous, une de nos priorités, puis un leg qu'on veut laisser Collecticité, c'est la sauvegarde des boisés restants du territoire. En termes de pourcentage, c'est très peu sur le territoire de la ville de Saint-Charles-Borromée. Et on le voit là dans les médias, Catherine Fournier qui est poursuivie par les promoteurs, les propriétaires. Depuis décembre 2023, on a le droit de changer le zonage de ces zones zones-là boisées pour les protéger ultimement. Puis comme nous, on veut en plus en faire l'acquisition, je pense que les propriétaires et les promoteurs n'ont pas de raison de s'en plaindre. Nous, ce qu'on veut à la fin de ça, c'est que les Charlois en profitent, puissent aller faire du ski de fond, puissent faire du vélo d'hiver, puissent faire de la randonnée pédestre. Vraiment qu'on conserve ces territoires-là puis que ça puisse servir et à nous comme citoyens, mais aussi comme corridor pour la faune.
On s'en était parlé la dernière fois qu'on s'est rencontrés de ce fameux litige là sur des terrains qui ont été, on va le dire comme ça, saccagés par un promoteur avant même qu'il ait le droit de construire. Est-ce qu'il y a eu des avancées ou il va en avoir?
Ben, il va en avoir. Là, j'ai pas eu les derniers détails d'où on en est, mais c'est certain que la ville est dans un processus juridique actuellement et la ville va demander, comme c'est prévu dans la réglementation, que l'endroit soit remis au mieux avec un reboisement, qu'on puisse, parce qu'il y avait des drains, là, des fossés qui avaient été creusés également, que ça puisse être remblayé. Puis on verra par la suite là qu'est-ce qu'il y en est, mais c'est certain qu'on va pas en rester là.
On parle beaucoup de densification. Saint-Charles-Borromée n'y échappera pas probablement. On veut attirer une nouvelle population. Quels sont les projets là, à ce niveau-là? Est-ce qu'on va procéder comme la ville voisine l'a fait, c'est-à-dire Joliette, par le biais de la loi 31?
Ben, dans certains cas, peut-être, mais il n'y a pas de projet actuellement sur la table qui va demander qu'on utilise la loi 31. D'autre part, ce qui est en train d'être développé, entre autres beaucoup, là, c'est le carré Saint-Charles, derrière l'hôpital, derrière la maison des aînés. Ça, c'est un plan d'ensemble qui est prévu déjà depuis plusieurs années. Ça va se compléter. Là. La seule chose, nous, c'est qu'on va arriver avec des nouvelles règles au niveau de l'urbanisme. Donc, dans certains cas, on va tordre la vis, là, si on me permet l'expression, à certains promoteurs immobiliers. On veut que ça soit davantage aligné sur la protection de l'environnement, plus de verdure, puis également ben, des choix plus intelligents en termes de toiture, par exemple, pour ne pas créer d'îlots de chaleur additionnels. Donc, il y a certains petits trucs comme ça qu'on va faire rapidement là dans la réglementation qu'on va changer au niveau de l'urbanisme.
Et la dernière administration consenti beaucoup d'efforts pour revamper la Visitation, la rue de la Visitation. Oui, il y a eu une réflexion majeure à des infrastructures municipales. On a refait l'asphalte et tout ça. Mais est-ce qu'on va tenter d'embellir davantage le secteur?
Oui, ça devait être fait hein, d'un trait, tout ça, la Visitation. Finalement, ça a été découpé en trois phases différentes. La première phase qui a eu lieu maintenant, bon, on le sait, là, il y a eu des coupures au niveau gouvernemental, au niveau du gouvernement du Québec, certaines subventions qui ne sont plus disponibles pour l'instant, puis ça a tellement explosé les coûts que ça devient difficile de le réaliser par nous-mêmes sans ces subventions. Donc, nos projets sont prêts, nos projets vont être déposés quand les subventions vont redevenir disponibles, puis assurément qu'on va refaire une autre portion. La seule chose que nous, on va s'assurer, contrairement à la phase numéro 1, c'est d'intégrer une piste cyclable, une piste multifonctionnelle pour pouvoir donner accès par mobilité active aux différents commerces.
Donc, la sermentation, là, c'est pour bientôt parce qu'on n'a pas le droit de siéger malgré le fait qu'on a été élu par acclamation. Là.
Ouais, on va être proclamé ce soir, 19h lundi, et assermenté. J'ai parlé avec Louis-André Garceau, qui est greffier à la ville, mais qui était également directeur des élections, pour qu'on puisse accélérer le processus de transition, pour qu'on puisse se mettre au boulot le plus rapidement possible. On le sait, on est en processus de budget aussi, ça tombe toujours mal, ces élections municipales. Et donc, ça va nous donner à peu près un mois de plus pour pouvoir se mettre le nez dans les chiffres.
Ben voilà, c'était le nouveau maire élu par acclamation, l'expression dit acclamation, mais c'est par en fait sans opposition, devrait dire, Alexis Nantel à Saint-Charles-Borromée. Il est 16h43, dans les prochaines minutes, on parle avec Pierre Paquette, il sera question du premier ministre Mark Carney qui va s'entretenir demain avec Donald Trump.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Édouard-de-Masquinongé, Quincaillerie Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, Dépanneur Beaussoir, à Saint-Paulin-Boucher, 4 saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père, dépanneur régional et dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Saviez-vous qu'avec Promutuel Assurance, une soumission en ligne se fait encore plus vite qu'un café latté? Gagnez du temps là, avec notre soumission en ligne rapide. En seulement 4 minutes, vous obtiendrez un prix pour assurer votre auto, maison, condo, appart, moto, motoneige, VR ou tout autre véhicule. Des prix qu'on aime, vite de même, c'est pas étonnant qu'on nous recommande autant. Demandez dès maintenant votre soumission en ligne sur promutuelleassurance.ca/rapide. Les conditions s'appliquent. Promutuelle Assurance et la 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 la.
Amateurs de plein air, c'est encore le temps de profiter de la pêche journalière à l'auberge La Barrière. Jusqu'au 19 octobre, venez taquiner la truite mouchetée, la truite arc-en-ciel et même la golden. L'auberge La Barrière, c'est une pourvoirie 4 saisons où la nature vous attend, été comme hiver. Réservez votre journée de pêche dès maintenant au 450-884-5748 ou rendez-vous au 1000 Chemin du Club de la Barrière à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Auberge La Barrière, l'endroit idéal pour décrocher.
L'Association des pompiers de Saint-Jean-de-Matha vous invite à un super party trad le 17 octobre dès 20h. Au programme, les cuillères à carreaux et les campagnards. Une soirée festive à ne pas manquer. Les billets sont en vente dès maintenant au 450-803-5232. Un party trad à ne pas manquer le 17 octobre dès 20h. Au Centre culturel de Saint-Jean-de-Matha.
À CFNJ. Voici le commentaire de Pierre Paquette.
Ah, je suis convaincu qu'il est en Bermuda à 28 degrés. Salut Pierre Paquette.
Ah, c'est sûr, et en sandales.
Pierre, avant de parler de Trump et de la rencontre avec Mark Carney qui est prévue pour demain, j'aimerais qu'on glisse un petit mot sur la France et de la démission du premier ministre Sébastien Lecornu après seulement 12 jours.
Oui, ben là, ça montre la position insoutenable de Macron. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale est composée majoritairement de députés de gauche, et lui, il s'acharne à nommer des députés de droite ou de centre-droite. Évidemment, il veut pas nommer personne de l'extrême-gauche. Donc, la seule possibilité de s'en sortir, ça serait d'arriver à s'entendre avec les partis de gauche, ce qui est pas facile parce qu'on a la France insoumise avec Mélenchon, oui. Qui... c'est pratiquement de l'extrême-gauche, là, pour nommer un premier ministre qui serait peut-être plus proche du centre-gauche pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale.
Puis de l'autre bord du spectre politique, il y a Marine Le Pen qui tire la couverte à l'extrême droite, là.
Oui, qui sont les premiers dans les sondages, mais par contre, quand on fait l'addition de toutes les autres voix, ben ils sont quand même pas majoritaires. Alors, et puis la France insoumise, toujours avec M. Mélenchon, qui demande à Macron de démissionner. Alors que les élections présidentielles sont seulement en 2027, alors ça m'étonnerait qu'ils fassent ça. Alors je sais pas là, comment ils vont être en mesure de sortir. Ça fait trois fois qu'ils s'essaient avec des premiers ministres de droite, mais pas des d'extrême droite, il faut bien s'entendre.
Oui.
Et que ça fonctionne pas, parce que d'un côté, il va y avoir l'extrême gauche, ou plutôt la gauche et l'extrême gauche qui vont s'y opposer, puis du côté de la droite, ben l'extrême droite va s'y opposer aussi. Alors j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va trouver une façon de s'en sortir. Il faut se rappeler que la dernière fois qu'il a nommé le premier ministre, celui qui vient de démissionner, il avait pris quelques heures seulement. Alors il n'avait pas consulté du tout les partis.
Ouais, ça s'est fait très rapidement pour Sébastien Lecornu.
J'ai l'impression qu'il va prendre son temps là cette fois-ci, puis il va essayer de trouver quelque chose qui va durer.
Ben semble-t-il qu'il y aura un ultimatum de 48 heures là pour qu'il trouve quelqu'un, mais en tout cas, ce sera pas. C'est un pays carrément ingérable là, présentement, la France.
Ouais. C'est comme beaucoup de nos villes où ils n'ont pas trouvé de maire.
Exactement. 50% des maires d'ailleurs ont été élus sans opposition là au Québec.
Ouais.
Pierre, on va parler du premier ministre Mark Carney qui va s'entretenir demain avec le président Donald Trump, et Donald Trump qui lui a réservé aujourd'hui une petite surprise en disant que il y aura des tarifs de 25% sur tous les camions importés aux États-Unis à partir du 1er novembre. Là, je pense entre autres à Kenworth qui a une usine du côté de Sainte-Thérèse là.
Oui, qui est une compagnie américaine.
Eh bien oui. Oui, c'est complètement ridicule.
Mais c'est quand même pas strictement axé sur le Canada. C'est une mesure qui est mondiale.
Oui.
Tous les camions européens, sud-coréens, japonais qui rentrent aux États-Unis vont avoir cette taxe de 25% à partir du 1er novembre, comme les automobiles. Par contre, j'ai compris que les camions qui étaient construits avec les règles d'origine qui sont dans l'accord Canada-États-Unis-Mexique vont être exemptés de ce 25%-là. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut représenter comme proportion de camions qu'on exporte aux États-Unis. Je sais qu'au plan des automobiles, la majorité des automobiles qu'on exporte aux États-Unis sont exempts de droits parce qu'ils respectent les règles prévues dans l'accord Canada-États-Unis-Mexique, ce qui montre l'importance de la renégociation de cet accord-là. Et c'est un peu ça que va faire Carney demain à Washington, c'est-à-dire mettre la table pour la renégociation de la CEUM. Et il a rajouté qu'il voulait aussi, comment je pourrais dire ça, sensibiliser son hôte, M. Trump, à la situation de l'acier. Alors, l'acier actuellement est canadien, mais c'est vrai pour toute la planète, mais sauf que 25% de l'acier qui rentre aux États-Unis vient du Canada, 50% de tarifs sur l'acier, donc il veut parler de ça en priorité. Et M. Legault a demandé que M. Carney parle aussi du bois d'œuvre, parce que pour ce qui est du bois d'œuvre, on est rendu à 45% de tarifs. On a vu ce qui est arrivé à l'usine à Saint-Michel-des-Saints, là, qui a dû fermer. Donc, c'est assez dramatique au plan du bois d'œuvre, mais c'est pas juste lié au tarif que Trump a ajouté, c'est lié aussi aux lois américaines sur l'antidumping puis les droits compensatoires. Comment je pourrais dire ça? C'est à chaque 6 ans à peu près, on a un conflit commercial dans le bois d'œuvre. Là, c'est le 6e. Et puis quand j'étais porte-parole pour le Bloc québécois pour ce qui est du commerce international, on en avait eu un qui s'était bien réglé finalement. Donc, il y a toujours une possibilité d'avoir un bon règlement. Mais encore une fois, il va falloir que M. Carney mettre le sujet sur la table. Je suis pas sûr qu'il va aller jusque-là.
Et puis, si tu parles du Bloc québécois, Pierre, le Bloc québécois qui, lui, a peur pour le lait de chez nous.
Oui, ça c'est toujours dans les attaques américaines, c'est la gestion de l'offre. Mais je pense que ça sera pas demain, il sera pas question de ça, là, ce que j'ai compris. Ça serait surtout l'acier, mettre la table pour la négociation de l'accord, du nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique, et aborder, si possible, le bois d'œuvre et l'automobile. Ça va sûrement inclure aussi les camions.
Il faut toujours être
vigilant, parce que on sait que M. Trump peut sortir un lapin de son chapeau
tout le temps. Eh bien, Poilievre qui lui donne son soutien quand même à Mark Carney, mais il dit là de rentrer au pays avec des résultats positifs pour les Canadiens. Je ne sais pas ce que Pierre Poilievre peut espérer et qu'est-ce que Pierre Poilievre pourrait faire à la place de Mark Carney, mais je pense Pierre Poilievre pourrait peut-être faire pire. Mais Mark Carney, moi je le disais la semaine dernière, j'ai l'impression depuis qu'il est au pouvoir en tant que premier ministre, c'est un peu un lèche-botte avec Donald Trump. Là.
Ben là, ce qu'on nous annonce, c'est qu'ils vont changer de stratégie, parce qu'effectivement, comme tu disais, il ne peut pas dire qu'il a brillé par son agressivité vis-à-vis le président Trump et les Américains. Là, il semble-t-il qu'ils vont changer d'approche. J'ai hâte de voir demain qu'est-ce que ça veut dire. Mais effectivement, ça n'a rien donné. M. Carney a rencontré Trump en mai dernier. Il devait y avoir des résultats. Il n'y en a eu aucun. D'ailleurs, les conservateurs se sont amusés en chambre à rappeler toutes les dates où il devait avoir des résultats et qu'il n'y en a pas eu. Et puis, entre-temps, nous, on a abandonné certains contre-tarifs. On a abandonné aussi la taxe sur les services numériques. En échange, on n'a rien eu. Alors, M. Carney, là, pour le moment, il ressemble plus à un tapis qu'à d'autres choses. Alors, demain, moi, je pense que la pression va être très forte sur lui pour revenir au moins avec quelque chose, une promesse, un engagement de la part de M. Trump. Mais le connaissant, M. Trump, j'ai pas l'impression qu'il va vouloir jouer dans ce film-là.
Et il sera question également de sécurité demain. As-tu remarqué, Pierre, depuis un bon moment, Trump ne parle plus de fentanyl?
Non, parce que le problème, c'est pas le Canada, c'est les États-Unis.
Oui.
Même chose pour le trafic des armes. Mais ça veut pas dire qu'il va pas le ramener si ça fait son affaire. D'ailleurs, à peu près tous les droits qui ont été imposés, sont basés sur le principe de la sécurité nationale. C'est très large, la sécurité nationale, là, dans l'esprit de M. Trump. Alors, par exemple, la taxe qu'il vient d'annoncer concernant les camions, c'est lié à la sécurité nationale. Donc, c'est tout le temps la sécurité nationale, le fentanyl aussi. Mais là, il y a la Cour suprême.
Oh, et puis l'idée d'envoyer l'armée à Chicago aussi, ça c'est la sécurité nationale.
Ça, ouais.
Ben oui.
Mais là, la Cour suprême va rendre une décision sur les tarifs au début novembre. Ça se peut très bien que tout ça là soit lettre morte pour M. Trump. Bon, après ça, peut-être qu'il va vouloir abolir la Cour suprême des États-Unis. C'est presque toutes des gens qu'il a nommés, en plus.
Tout est possible.
C'est à voir.
Mais merci beaucoup, Pierre Paquette. On va suivre justement cette rencontre demain.
On va en parler mercredi aussi. On verra les résultats, puis on pourra faire l'analyse de tout ça.
Justement. Et j'ai l'impression que Pierre Poilievre va vraiment attendre Mark Carney avec une brique et un fanal.
Oh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas juste lui.
Merci, Pierre Paquette.
Ben, salut.
Lanaudière PM, affaires municipales.
Le directeur incendie et de la sécurité publique à Saint-Michel-des-Saints, Michel Delaplante, est celui là, qui a eu l'idée d'un fameux camion incendie 4x4 à essence. Un camion tout à fait spécial qui est muni d'un bras télescopique avec une nacelle. Ça ressemble presque au bras canadien de la navette spatiale. Là. Des équipements accessoires entièrement électriques. L'annonce de l'acquisition de ce gros camion a eu lieu vendredi. Michel Arnois a rencontré justement Michel Delaplante, le directeur incendie et de la sécurité publique à Saint-Michel-des-Saints, qui lui raconte comment le projet est né et quelles seront les utilisations de ce fameux camion.
C'est tout un événement, une première presque, il faut le dire, mondiale.
Effectivement, c'est un produit tout neuf, tout développé dans Lanaudière, une première mondiale, il faut le dire.
Et ça aura plusieurs usages pour le service des pompiers?
Oui, le premier usage, bien sûr, c'est d'accéder à des endroits qui sont plus restreints. Donc, on va pouvoir éteindre des feux avec de plus facilement dans les hauteurs. Et bien sûr, sauver des vies là, dans au deuxième, troisième étage. Et accéder à des endroits beaucoup, beaucoup inaccessibles avec les camions qu'on connaît conventionnellement.
Il y a une subvention de 500 000 $ du gouvernement. Le coût total, c'est combien de l'équipement?
On parle environ d'un véhicule qui va coûter sur le marché entre 600 et 850 000 $. Donc, on a eu un bon coup de main là, pour la production du camion là, de Alliance Métal Québec.
Pensez-vous que ça va faire boule de neige, que beaucoup de municipalités vont venir voir votre équipement et pour s'en commander?
Ben, je peux vous affirmer que c'est déjà commencé, la frénésie, les questionnements. Beaucoup nous demandent déjà de venir le voir en action, donc on restreint quand même les visites pour l'instant, mais on a déjà beaucoup, beaucoup de demandes et de courriels et ça s'en vient. On va faire des portes ouvertes bientôt.
C'est quoi la réaction de votre service d'incendie, de vos collègues?
Ben, c'est une fierté. Au début, c'était juste un projet sur un papier. Maintenant, c'est réalité. Là, je crois qu'ils viennent de le vivre aujourd'hui avec tout le monde. Et ils sont très heureux et surtout se sentent plus en sécurité pour intervenir. Là. Ça va être un gros plus pour leur sécurité.
On essaie de faire l'histoire du projet. Ça a commencé quand à germer dans votre tête ce camion?
Ça a commencé, je dirais, environ 5 ans, quand j'ai vu un autre camion très petit. Je me disais un jour, Saint-Michel-des-Saints devrait avoir ça dans son service ou pour sa collectivité. Et en 2023, décembre 2023, j'ai vu apparaître d'Alliance Québec un formulaire pour un projet innovateur. Et c'est là que j'ai rempli le formulaire et on a été choisi le 7 janvier 2024, comme quoi notre projet avait été retenu.
Vous êtes fier aujourd'hui?
Extrêmement fier de ce produit-là, de ce projet-là, conjointement avec RH. On a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup et des longues soirées qu'on a parlé au téléphone, des esquisses, on a changé des choses, on a recommencé, on fait des essais et là, on a le produit aujourd'hui là, presque fini à 99,9%.
Quand il sera en opération officiellement?
On estime qu'il devrait être en opération en 2026, janvier 2026, le temps que les pompiers soient formés, qu'ils aient pris une bonne assurance à travailler avec le camion et d'être formés légalement pour pouvoir intervenir.
C'est une grosse formation?
Une formation d'une quarantaine d'heures, plus la formation du feu manufacturier qui dure à peu près 7-8 heures aussi.
C'est un camion électrique. Ça va à quelle vitesse environ, ça?
Ben le véhicule se déplace avec son énergie essence normale, mais par contre, aussitôt qu'il est en mode travail, on a une autonomie de 8 heures de travail là, sans utiliser l'essence, rien. Donc, c'est une première.
Ben voilà, c'était le directeur incendie de la sécurité publique à Saint-Michel-des-Saints, Michel Delaplante, avec qui Michel Arnois s'est entretenu. Il est 16h59, c'est le temps de saluer et remercier nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, Régent Turgeon, Mathieu Bélanger, François Morin, Pierre Jubinville, Pierre Paquette, ainsi que Michel Arnois et Claude Fournel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et manquez pas dans un tout petit moment le 5 à 7 trad avec aujourd'hui Alain Rivard en remplacement de Nicolas Bellemare. Et nous, on se retrouve demain, 16h, pour une autre édition de Lanaudière PM. Salut, bye-bye!